Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la sainte sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Thank you.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce vendredi 19 mai 2023. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Les guerres américaines après le 11 septembre ont fait au moins 4,5 millions de morts. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, les forces israéliennes attaquent les Palestiniens qui protestent contre la marche du drapeau. Le président Assad arrive à Jeddah pour participer au sommet de la Ligue arabe. Et puis l'Afghanistan n'a pas autorisé l'équipe technique iranienne à mesurer la quantité d'eau à l'Irmand. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Un groupe de colons israéliens a pris d'assaut l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Al-Quds, occupée dans le but de remettre en cause le statu quo du lieu saint. Les colons ont pénétré dans l'enceinte, escortés par des soldats du régime usurpateur. Des vidéos mises en ligne montrent des colons effectuant des rituels en violation du statu quo de la mosquée Al-Aqsa qui n'autorise pas les non-musulmans à y prier. Les Palestiniens critiquent vivement ces actes qu'ils considèrent comme une profanation du lieu saint. Par le passé, des provocations similaires de la part des colons ont donné lieu à de violents affrontements avec les Palestiniens. La marche dite du drapeau organisée par les Israéliens marque la prise d'Al-Quds par l'entité sioniste en 1967. Les Palestiniens ont réagi en organisant des rassemblements dans la bande de Gaza contre la marche israélienne qu'ils considèrent comme une provocation. Les forces israéliennes ont attaqué des manifestants palestiniens près des frontières orientales de la ville de Gaza et ont blessé plusieurs, ont rapporté des sources locales jeudi. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que les mesures prises par le régime extrémiste et occupant israélien constituent une menace sérieuse pour la paix et la sécurité régionale. Hossein Amir Abdollahian a fait ses remarques lors d'un appel téléphonique avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Il faisait référence à la dernière agression d'Israël contre la bande de Gaza assiégée. Amir Abdollahian a déclaré que les groupes de résistance palestiniens ne toléreront pas les mesures inhumaines d'Israël et y répondront fermement. Israël a attaqué Gaza pendant 5 jours à partir du 9 mai. L'assaut a fait plus de 30 morts, dont des femmes et des enfants. La ville portuaire saoudienne à Jeddah accueille le 32e sommet de la Ligue arabe. Ce sommet est d'autant plus important que le président syrien Bachar al-Assad y participe après plus de 12 ans d'absence. Selon le journal syrien Al-Watan, l'avion transportant le président syrien Bachar al-Assad a atterri à l'aéroport international Roi Abdelaziz de Jeddah jeudi soir. Le président Assad a déclaré à cette occasion que le sommet de Jeddah était très important pour stimuler l'action arabe commune. Il a fait ce commentaire lors d'une interview avec les médias tunisiens après avoir rencontré son homologue tunisien. Le vice-ministre syrien des Affaires étrangères, Ayman Souzan, avait annoncé que M. Assad était susceptible de rencontrer plusieurs dirigeants dans le cadre de réunions bilatérales en marge de cet événement important. L'Iran a de nouveau exhorté les talibans au pouvoir en Afghanistan à autoriser des équipes techniques à inspecter le barrage construit sur la rivière Irmand qui est partagée entre les deux pays voisins. Les autorités afghanes avancent que le fleuve n'a pas assez d'eau pour être partagé avec l'Iran. Le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que malgré les appels fréquents de l'Iran, le gouvernement taliban n'a pas encore autorisé les experts iraniens à visiter le barrage. Il a ajouté que le principal critère pour confirmer le manque d'eau derrière le barrage sort des inspections techniques et objectives menées par des experts et non des déclarations politiques. En vertu du traité de 1973, l'Afghanistan doit partager les eaux du fleuve Irmand avec l'Iran, mais le ministère iranien de l'énergie a accusé à plusieurs reprises les autorités afghanes de ne pas respecter leurs engagements liés au quota d'eau de l'Iran. Le président iranien Ibrahim Raisi a déclaré que la République islamique et le Pakistan étaient déterminés à étendre leur coopération bilatérale. Raisi s'exprimait lors de la cérémonie d'inauguration d'une nouvelle ligne de transport d'électricité entre l'Iran et le Pakistan. La nouvelle ligne électrique permettra une augmentation du volume annuel des échanges d'électricité entre les deux pays pour atteindre 200 mégawatts. Enfin, le procès de Hamid Nouri, les avocats du ressortissant iranien Hamid Nouri détenu en Suède, ont une nouvelle fois remis en question le déroulement de son procès et critiqué la manière dont il est traité en prison. Les avocats de Nouri affirment qu'il est détenu à l'isolement depuis plus de 3 ans. Ils ont qualifié cette période de trop longue et de record dans le monde. Ses avocats affirment que Nouri est privé de visite aux membres de sa famille, accusant les autorités pénitentiaires de refuser d'organiser des rendez-vous dans le cadre des droits légitimes du détenu. Ils ont également reproché aux autorités suédoises d'empêcher Nouri d'accéder à des documents essentiels à se défendre devant le tribunal. Les avocats ont soulevé ces questions lors de la 10e session d'une audience de la cour d'appel. Nouri a été arrêté à son arrivée à Stockholm en novembre 2019. Les procureurs suédois l'accusent d'être impliqué dans l'exécution de membres de l'organisation des Moudjahidines du peuple, OMK. Il s'agit d'un groupe terroriste responsable de la mort de dizaines de milliers de civils en Iran. L'Iran a rejeté les accusations portées contre Nouri, les qualifiant de politisés. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Les guerres américaines, après le 11 septembre, ont fait au moins 4,5 millions de morts. Un nouveau rapport a révélé que les guerres déclenchées par les États-Unis au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, à la suite des attentats du 11 septembre, ont directement ou indirectement tué au moins 4,5 millions de personnes et déplacé des millions d'autres. Selon le rapport publié le 15 mai à l'issue du projet de recherche « Coup de la guerre » du Brown, mené par l'Institut Watson pour les affaires internationales et publiques, près d'1 million de personnes ont été directement tuées à la suite des conflits en Afghanistan, en Irak, au Pakistan, en Syrie, au Yémen, en Libye et en Somalie. Le rapport a également estimé qu'au moins entre 3,6 et 3,7 millions de victimes étaient des décès indirects, causés par divers facteurs, notamment des économies défaillantes, l'extrême pauvreté, la malnutrition, la maladie, la destruction des infrastructures de santé, la contamination de l'environnement, ainsi que les traumatismes et les violences qui en résultent. Le nombre de victimes directes et indirectes de la guerre continue d'augmenter à cause des conflits mondiaux en cours après plus de deux décennies, ajoute le rapport. Ces guerres se poursuivent pour des millions de personnes dans le monde qui vivent avec et meurent de leurs effets. Les femmes et les enfants souffrent le plus de l'impact, selon le rapport. Les décès indirects sont dévastateurs, notamment parce qu'un si grand nombre d'entre eux pourraient être évités sans la guerre, indique le rapport, ajoutant qu'il est difficile d'estimer les décès indirects car ils ne se produisent pas immédiatement après les batailles. Un décès dû à la faim survient généralement des mois ou des années après que la guerre ait interrompu l'accès à la nourriture. Souvent, les personnes touchées par la guerre sont les déplacés qui deviennent plus vulnérables. Le rapport a également reconnu qu'il est difficile de distinguer les facteurs indirects de mortalité de guerre de ceux qui auraient pu se produire dans les endroits où les gens souffrent déjà de taux élevés de pauvreté, de maladies et de malnutrition. Le rapport pointe du doigt les États-Unis pour leur rôle dans de nombreuses guerres éclatées après le 11 septembre, en particulier les victimes des plus de 20 dernières années en Afghanistan. Bien que les États-Unis aient retiré leurs forces militaires d'Afghanistan en 2021, mettant officiellement fin à la guerre, les Afghans souffrent et meurent de causes liées à la guerre à un rythme plus élevé que jamais. Les États-Unis ont envahi l'Afghanistan en octobre 2001 à la suite des attentats du 11 septembre 2001 contre les tours jumelles du World Trade Center à Manhattan, malgré le fait qu'aucun ressortissant afghan n'ait été impliqué dans les attaques. Des centaines de milliers d'Afghans sont morts dans la guerre américaine contre le pays. Les talibans sont revenus au pouvoir en 2021, 20 ans après leur destitution par les forces américaines. Le rapport a également appelé Washington à réparer les dommages causés par les conflits après le 11 septembre, déclarant « Les réparations, bien qu'elles ne soient ni faciles ni bon marché, sont impératives ». L'objectif du rapport est de sensibiliser davantage aux coûts humains plus complets de ces guerres et de soutenir les appels lancés aux États-Unis et à d'autres gouvernements pour atténuer les pertes et les souffrances des millions de personnes dans les zones de guerre actuelles et anciennes. Il y a des coûts qui se répercutent, le coût humain de la guerre que la plupart des gens aux États-Unis ne connaissent pas assez ou auxquels ils ne pensent pas vraiment, a déclaré Stéphanie Savelle, co-directrice du projet Coût de la guerre. Elle a en outre déclaré que les chercheurs ont appliqué le ratio moyen du secrétariat de la Déclaration de Genève de 4 décès indirects pour chaque décès direct, ajoutant que si ce ratio peut être inférieur en Irak, il serait plus élevé au Yémen ou en Afghanistan, et que le ratio a donc été jugé exact pour arriver à l'estimation raisonnable et prudente de 4,5 à 4,6 millions.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition de débats. Les combats se poursuivent entre l'axe de la résistance, notamment à Gaza, et le régime sioniste, des combats intenses qui ont fait des pertes aussi bien du côté israélien que du côté palestinien, mais surtout un silence des instances internationales comme d'habitude, qui ne réagissent pas à ces crimes, les crimes continus du régime sioniste qui se poursuivent depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies. Mais le plus important, ce sont ces dernières attaques et ces derniers agissements dans la région qui se poursuivent. Nous allons évoquer en détail ce qui se passe sur le terrain avec nos deux invités. Mais avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage préparé par mes collègues à ce sujet. On revient tout de suite après.
La lutte de la résistance palestinienne contre les crimes du régime sioniste est à son quatrième jour, en ce vendredi 12 mai. Et les sirènes d'alerte à la roquette n'ont pas cessé de retentir à Tel Aviv. Les sources israéliennes ont rapporté que le nombre d'attaques était élevé et que l'armée sioniste avait subi de lourdes pertes. Des politiciens, des opposants et des membres des médias dans les territoires occupés font pression sur le cabinet sioniste pour mettre fin au conflit. Le site internet de la chaîne 7 du régime sioniste a rapporté qu'il y a un consensus pour un cessez-le-feu parmi les rangs politiques et les autorités militaires à Tel Aviv, qui s'accordent sur la nécessité de mettre fin aux offensives contre la bande de Gaza. D'ailleurs, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a eu jeudi soir une réunion sur l'évolution de la sécurité en présence du ministère des Affaires militaires Yoav Gallant, du directeur de l'agence de renseignement Ronen Bar, du chef de l'armée Herzi Halevi et d'autres hauts responsables militaires. À mesure que les destructions et les pertes dans les territoires occupés augmentent, les critiques sur l'état défectueux des systèmes de défense aérienne d'Israël prennent de l'ampleur dans le milieu politico-militaire. Daniel Agari, porte-parole de l'armée sioniste, a reconnu le dysfonctionnement du drone de fer. Le missile qui a touché une maison à Sderot n'a pas été intercepté en raison d'un défaut technique. Le missile tiré à une portée de 70 km et était accompagné de 20 kg d'explosifs, a-t-il indiqué. Selon les dernières statistiques révélées par le ministère de la Santé de Palestine, 31 personnes ont été tuées et 93 autres blessées à la suite de l'agression continue du régime sioniste dans la bande de Gaza. Des drones et des armes israéliens ont touché des maisons et des champs agricoles.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Je vous présente nos deux invités d'honneur. Il s'agit de Luc Michel, géopoliticien, qui est avec nous depuis Bruxelles, et également Rada Oubala, docteur en géopolitique à l'Université islamique du Liban. Je vous dis bonjour à tous les deux et merci de nous avoir accordé votre temps pour cette émission. Alors, Rada Oubala, vous êtes experte en ces questions. Vous êtes aussi observatrice de très près de ce qui se passe sur le terrain. Donc, dans un premier temps, comment interprétez-vous la situation? Dans quelle situation et dans quelles circonstances trouve-t-on-nous en fait aussi bien à Gaza et aussi dans les territoires occupés?
Oui, je vous écoute.
D'accord.
Alors, merci beaucoup pour votre invitation et je salue également au passage votre invité, M. Luc Michel.
Merci.
Alors, concernant votre question, pour rappeler les faits très vite, c'est qu'après l'assassinat de trois hauts cadres, plus exactement, du djihad islamique, l'entité sioniste n'a pas réussi à marquer un point face au silence stratégique adopté par le djihad islamique qui a duré environ 35 heures. Après les 35 heures, un deuxième point fort de la part du djihad islamique, c'est que là j'entends un écho, excusez-moi. C'est que c'est la chambre commune des factions de la résistance islamique qui a déclaré dans un communiqué que la riposte sera très sévère. Et elle a annoncé l'opération La Vengeance des Libres. Donc, à travers ces deux points forts, l'entité sioniste qui voulait éradiquer le djihad islamique et l'isoler par rapport aux autres factions de la résistance n'a pas réussi à le faire. premièrement. Et deuxièmement, malgré le martyre de trois hauts cadres militaires du djihad islamique, ceci n'a pas empêché le djihad islamique de lancer plusieurs salves, près de 830 missiles jusqu'à ce jour, qui ont touché le cœur de Tel Aviv, qui ont touché les colonies environnantes à la bande de Gaza, qui ont forcé les colons sionistes et les sionistes de se réfugier dans leurs abris. Mm-hmm. Donc ça c'est pour c'est un résumé plus ou moins positif. Mais si l'on veut également comparer le bilan jusqu'à aujourd'hui, il y a près de 5 hauts cadres qui ont été tués appartenant au djihad islamique. Ce n'est pas évident, c'est une situation difficile. Certes, que ce soit le djihad islamique ou n'importe quelle faction de résistance palestinienne ou islamique, donc je parle de tout l'axe de résistance, tous ces commandants qui sont tués pour chasser aspirent en fait non pas à la gloire au niveau matériel, mais surtout aspirent au martyre. Donc les factions de la résistance ne seront pas démoralisées ou bien par le fait que l'entité sioniste parvient justement à tuer de hauts cadres. Je reviens au discours du secrétaire général du Hezbollah hier qui a déclaré et qui a bien souligné que les factions de la résistance ont la capacité de remédier à la perte de leur commandant. Donc, on est habitué aux propos de Saïd Hassan Nasrallah qui, d'habitude, se base sur des faits dont on ne connaît pas. Donc, s'il déclare une telle déclaration, c'est que vraisemblablement, il y a encore beaucoup de surprises que les factions de la résistance promettent de réaliser, de surprendre l'entité sioniste. Mais encore, il a bien souligné et rappelé que si jamais l'axe de la résistance et se voit forcé d'offrir son soutien aux factions de la résistance palestinienne, s'il y a nécessité en cela, nous serons prêts à accomplir notre devoir dans cette lutte. Donc, la question qui se pose, après le martyre du commandant de l'unité opérationnelle hier, M. Iyad al-Hassani, je doute fort que les factions de la résistance palestinienne puissent accepter une quelconque trêve. Je pense que maintenant c'est fini, on va aller d'escalade en escalade. Et je crois que le djihad islamique va aller jusqu'au bout. Et quand on parle jusqu'au bout, alors là, je pense réellement, c'est la première fois que je dis que c'est l'axe de la résistance qui va également réagir. Parce que si commandants tués ainsi et ne pas pouvoir parvenir à une trêve dans laquelle la condition première est d'arrêter la politique d'assassinat adoptée, entreprise par l'entité sioniste, il n'y aura pas de trêve.
Merci pour les explications, Rada Oubala. Restez en ligne, s'il vous plaît. Alors, Luc Michel, vous êtes également avec nous. Vous également, vous suivez de très près les évolutions de la région. Vous avez entendu l'analyse de Rada Oubala. Vous, qu'en pensez-vous? Quelle est votre analyse à ce sujet?
Tout d'abord, je vous salue, votre équipe et ma collègue. Et c'est un plaisir de vous retrouver pour soutenir la cause palestinienne. Ça fait plus de 50 ans que je soutiens les Palestiniens. Ça a été le premier engagement politique de ma vie. Et aujourd'hui, nous voyons enfin la cause progresser. Il y a deux choses à retenir. Tout d'abord, c'est que le temps de la désunion des Palestiniens est terminé. Aujourd'hui, il y a une résistance palestinienne unie qui est en phase avec l'acte de la résistance et qui est en phase avec l'opinion publique arabe. Mais la seconde chose, c'est que l'agression israélienne contre les Palestiniens a changé de dimension. On n'est plus à une occupation hypocrite avec des moyens de répression des colons, etc. On est véritablement dans une guerre d'occupation avec l'armée israélienne qui frappe avec tout le matériel militaire les populations palestiniennes. Et les populations palestiniennes qui répondent elles aussi avec du matériel militaire lourd. C'est cela qui est différent de ce qui s'est passé au cours des décennies. précédente.
Merci. Et vous, M. Michel, à votre avis, quelles seront les réactions prochaines de l'axe de la résistance?
Je crois qu'il y aurait une montée en puissance. Les Israéliens, par leur agression, ont empêché tout dialogue. Il n'y aura pas de trêve, mais volontairement une montée en puissance. D'autant plus que la résistance palestinienne, c'est qu'elle est un moment historique de son histoire.
Merci, Erada Oubala. Vous avez évoqué les chances que le Hezbollah libanais entre en scène et réagisse. À votre avis, un petit peu en plus de détails, si possible, quelles seront ces réactions?
Tout dépend de l'évolution des événements sur le terrain en Palestine occupée. Le Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, a bien souligné en fait que nous suivons minute par minute. C'est dire qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe sur le terrain. Nous suivons minute par minute les événements en Palestine occupée. Et donc, étant donné que c'est la chambre commune des factions de la résistance palestinienne qui est en train de superviser toutes les actions de riposte de la part du djihad islamique, on pourrait voir peut-être un début, si jamais la situation se détériore, que le Hamas puisse se joindre justement au djihad islamique. Et là, à ce moment-là, si le Hamas rejoint le djihad islamique, nous sommes devant une nouvelle équation au niveau de l'équilibre de la terreur sur à Gaza. Et donc, la situation risque d'augmenter si jamais Netanyahu fait l'erreur d'ouvrir le front nord de la Palestine occupée ou de l'entité sioniste, c'est-à-dire la frontière libano-israélienne. Ou bien, on pourrait voir, là, c'est des scénarios que je suis en train d'analyser, oui. Qu'à ce moment-là, ça va être Hassan Nasrallah, puisse ouvrir non pas la frontière libano-palestinienne, mais que ce soit du côté du Golan. Donc là, ce sera du côté du Golan syrien. Et donc, on pourrait également ouvrir un front là-bas. Tous les scénarios sont possibles, sont plausibles. Je ne peux pas donner une analyse précise, puisque là, au moment où je vous parle, déjà, il y a eu plusieurs urgences, c'est-à-dire la radio israélienne a d'abord déclaré à 1h30 que les négociations de cessez-le-feu sont en impasse. Et il y a eu en même temps plusieurs raids aériens israéliens, là maintenant, à l'heure où je vous parle, simultanés dans plusieurs régions au nord de la bande de Gaza, à Jabalia, à Beit Lahia, à Beit Hanoun. Donc ce sont le cercle de feu est en train de s'élargir. Et donc, j'imagine que le Hamas va intervenir dans cette lutte. Également encore, selon un communiqué des brigades Al-Quds, il y a environ une heure, ils ont également marqué le ton en disant que face à la poursuite, que la résistance s'est préparée pour des mois de confrontation. Donc là, on n'est plus à une affaire de 4 jours ou bien c'est fini. Je vous ai dit auparavant qu'à partir du moment où il y a 6 ou 5 commandants-chefs qui ont été assassinés, il est hors de question pour les brigades Al-Quds et pour le djihad islamique d'accepter une trêve dans laquelle il n'y a pas comme condition sine qua non que l'entité sioniste arrête sa politique d'assassinat. Et je dois le dire, malheureusement, l'entité sioniste ne signera jamais un tel accord avec une telle condition, pour une simple raison, que la Cour suprême israélienne a donné un jugement dans lequel elle a considéré que la politique d'assassinat de l'entité sioniste fait partie de la sécurité nationale de l'entité sioniste. Donc ils ont déjà une légitimité au niveau intérieur. Donc il n'est pas question qu'ils puissent accepter une telle condition. C'est la raison pour laquelle je ne vois qu'une escalade et que la région risque de s'enflammer. Parce que dans les deux cas, il est impossible que l'un des deux ne puisse se plier. Netanyahou, en plus, sans compter que le premier ministre israélien Netanyahou joue son avenir politique, déjà il était dans une situation embarrassante parce que justement il y avait une déchirure, une dissension entre au sein de la société juive. Donc, vous avez l'opposition qui est en train de guetter ce qui se passe. Et déjà, il l'accuse d'avoir entraîné l'antisémitisme dans une escalade dans laquelle on ne sait pas quelles seront ses conséquences et comment elle risque de se terminer. Nous sommes dans une impasse qui risque d'enflammer la région.
Et Madame Moubala, en ce qui concerne le dernier discours de Saïd Hassan Nasrallah, est-ce que vous qui suivez toujours en détail ces discours, est-ce que vous pourrez aussi nous donner votre analyse en ce qui concerne les détails et les objectifs et les points importants en fait du discours de Saïd Hassan Nasrallah?
Déjà, il faut rappeler les téléspectateurs de Presse TV, c'est que l'annonce du discours de Saïd Hassan Nasrallah a été faite il y a environ une semaine, c'est-à-dire avant même justement les événements qui ont éclaté en Palestine occupée. Donc, il était censé parler en fait dans son discours sur le retour de la Syrie dans la Ligue arabe, sur l'accord. Le réchauffement des relations entre le royaume de l'Arabie saoudite et la République islamique de l'Iran, sur la question des migrants syriens, des réfugiés syriens, sur la question, donc il y avait des questions sur la question présidentielle du Liban. Donc il a changé en fait son discours parce que justement il y a eu un événement très important en Palestine occupée. C'est pour ça qu'il a commencé son discours par justement les récents événements en Palestine occupée. Il a d'abord souligné que la position unifiée des factions avait avorté les objectifs de Netanyahu, c'est ce que j'avais dit au début, étant donné que c'est un point fort. Et il a rappelé que les calculs de Netanyahu se sont soldés par un échec. Il a essayé de tenter d'isoler le djihad islamique, de neutraliser le reste des factions palestiniennes et de semer la sédition dans l'environnement de la résistance, ce qu'il n'a pas réussi à faire, au contraire. Il a rappelé que l'un des atouts de force des mouvements de résistance dans la région est qu'ils ont une grande capacité de restaurer rapidement leur structure de commandement. Donc là, il a rappelé en fait que même quand on a assassiné le commandant-chef de la résistance islamique, Imad Mournier, en Syrie, ensuite il y a eu, il y a quelques années, le commandant-chef des gardiens de la révolution islamique, Haj Qasem Soleimani. Oui. Mais l'axe de la résistance n'arrête pas son parcours ni ses performances. Et ce qui s'est passé récemment, là, dans les événements récents en Palestine occupée, c'est que l'entité sioniste a reconnu qu'en fait, il y a de nouveaux missiles dotés de technologies de haute précision qui ont été utilisés par le djihad islamique et qui n'ont jamais été utilisés auparavant par le Hamas ou par le djihad islamique. Et là, encore hier, ils ont utilisé pour la première fois des missiles air-sol. Donc là, on est entré également dans l'utilisation de nouvelles armes. Et même le djihad islamique a dévoilé sur une vidéo qu'il a diffusée sur son média militaire, le dernier missile Boura 84, qui est capable d'avoir une portée de 80 km et qui est également de haute précision. Donc, c'est ce qu'a rappelé justement le secrétaire général du Hezbollah. Bien entendu, il a parlé de la Syrie, en rappelant que la Syrie n'a pas changé sa stratégie, n'a pas changé d'axe, malgré tous les complots qui ont été dessinés contre elle, et qu'au contraire, la Syrie est retournée au sein de la Ligue arabe. Et bien entendu, il a vilipendé les États-Unis, en rappelant que les États-Unis continuent de voler le pétrole et le gaz syrien et continuent d'imposer un blocus sur la Syrie à travers la loi César. Il a également, pour la première fois, il a parlé de la question du trafic de drogue, auquel on accuse souvent le Hezbollah, afin justement de briser son image. Et il a rappelé qu'au niveau de la charia islamique, au niveau du fiqh, il n'est pas question pour le Hezbollah de s'engager dans un trafic de captagone ou dans tout cela. Au contraire, il faut se demander qui au Liban a intérêt à faire ce trafic, qui, dans les pays du Golfe, sont en train d'acheter des Libanais. Et là, il a dit que nous sommes prêts à aider l'armée pour créer un comité d'enquête afin de pouvoir définir quelles sont les personnes qui sont impliquées. Voilà, grosso modo, c'est ce qu'il a parlé.
Merci infiniment. Alors, Rada Obala, vous avez évoqué la situation, la perspective des évolutions, mais aussi l'analyse du discours de Seyed Hassan Nasrallah. Luc Michel, vous avez entendu cette analyse. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre analyse aussi bien sur la perspective des évolutions vu la situation actuelle et aussi le discours de Seyed Hassan Nasrallah?
La raison sur toute la ligne. Il y a trois choses à dire. Tout d'abord, en ce qui concerne le trafic de drogue, il y a aujourd'hui du géopolitique de la drogue, on l'appelle comme ça, qui inclut étroitement la vente de drogue au sein des appareils d'État et des appareils économiques occidentaux, tout d'abord aux États-Unis. La deuxième chose qu'il faut dire, évidemment, c'est que c'est le rôle initiateur de l'axe de la résistance dans la phase actuelle du combat palestinien, puisque c'est en 2006 que le Hezbollah a inventé au Liban cette nouvelle forme de guerre qu'on appelle la guerre hybride et qui a connu tant de succès. Enfin, il faut rappeler quelque chose, c'est qu'en renouant avec la lutte armée, la résistance palestinienne renoue avec ses racines des années 1960. Et je tiens ici à rendre hommage à la mémoire de Roger Coudroy. C'est le premier Européen qui est tombé au combat, les armes à la main dans les rangs du Fatah. Il appartenait à mon organisation. Nous ne devons pas oublier cette première génération du Fatah.
Exactement. Et Luc Michel, vu la complexité de la situation, nous avons près d'une minute devant nous. Est-ce qu'on pourrait s'attendre aussi à l'intensification des combats sur le terrain?
Écoutez, je crois, moi, à une radicalisation des combats, d'autant plus que l'axe de la résistance a le vent en poupe et que la géopolitique du Proche-Orient a changé. La réconciliation entre l'Arabie saoudite et Téhéran, qui va être suivie par une réconciliation avec les Émirats arabes unis et le Bahreïn, évidemment, ça annonce de plus en plus de support et un monde arabe vent debout derrière la résistance palestinienne. Donc, radicalisation, oui.
Merci infiniment. Alors, Luc Michel, géopoliticien, Rada Obala, docteur en géopolitique à l'Université islamique du Liban, était avec nous. Nous avons évoqué ces derniers jours, ces 5 jours de combat intense entre le Gaza, plus précisément l'axe de la résistance et le régime sioniste, et aussi la perspective des évolutions. En effet, la situation est très compliquée. Il faut s'attendre aux prochains jours pour avoir plus de détails. Nous consacrerons bien sûr d'autres émissions à ce sujet avec nos experts. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Je vous dis à bientôt à toutes et à tous. Au revoir.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission qui porte sur le renforcement des relations entre Téhéran et Moscou. Le président iranien Ibrahim Raisi et son homologue russe Vladimir Poutine ont supervisé ce mercredi 17 mai 2023 la signature d'un accord pour financer et construire une ligne ferroviaire iranienne dans le cadre de financer et construire le corridor de transport international nord-sud. L'accord a été signé par le ministre iranien des routes et de l'urbanisme Mehdod Basposh et le ministre russe des transports Vitaly Savaliev lors d'une cérémonie qui s'est tenue dans la capitale Téhéran. Intervenant lors de la cérémonie de signature, le président iranien a déclaré « Le projet d'accord ferroviaire Rasht-Astara remontait à 20 ans et avait été reporté pour diverses raisons, mais qu'il était aujourd'hui mis en œuvre, ce dont les deux parties se félicitent. » Cet accord profitera non seulement à l'Iran et à la Russie, mais aussi à tous les pays situés sur l'itinéraire du corridor nord-sud, a noté le président Raisi, avant de préciser que l'axe en question sera une manifestation de l'amitié, du rapprochement et de la coopération commerciale et économique entre tous ces pays, et que l'ouverture de cette route contribuera grandement au commerce et au transit de la région. Le président russe Vladimir Poutine est lui aussi intervenu par visioconférence pour souligner que la mise en service de ce chemin de fer permettra d'établir une connexion ferroviaire directe et continue le long de l'ensemble du corridor nord-sud. Le chemin de fer Rasht-Astara est considéré comme un lien important dans le corridor, destiné à relier l'Inde, l'Iran, la Russie, l'Azerbaïdjan et d'autres pays par la voie ferrée et maritime. Une route qui, selon Moscou, peut rivaliser avec le canal de Suez en tant que route commerciale mondiale majeure. Un tel projet témoigne de l'évolution positive des relations entre Téhéran et Moscou, a poursuivi le président russe, grâce aux mesures politiques de la présidence iranienne et du leader de la révolution islamique, l'ayatollah Khamenei. Il a également indiqué que le chemin de fer de 162 km qui longera la côte de la mer Caspienne contribuerait au transport ferroviaire sans escale tout au long du corridor nord-sud. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la construction de ce chemin de fer réduirait à 10 jours le transport de marchandises entre Saint-Pétersbourg et Mumbai. Le volume du trafic de marchandises augmentera sensiblement, le potentiel commercial de nos deux États se renforcera. Les marchandises russes et iraniennes bénéficieront d'un accès plus confortable et plus diversifié au marché étranger, a-t-il précisé. Le président russe Vladimir Poutine a également exprimé son enthousiasme face aux nombreux avantages que la mise en place de ce corridor pourra apporter, notamment l'augmentation du volume des échanges de marchandises et la réduction de leurs coûts de transport, ainsi que l'attrait des investissements dans les provinces d'Iran et de Russie et l'utilisation accrue de la capacité des ports des deux pays. Le projet de corridor de transport international nord-sud vise à réduire les délais de transport de marchandises entre l'Inde et la Russie ainsi que vers l'Europe du Nord et de l'Ouest. Le chemin de fer Rasht-Astara, qui sera mis en œuvre dans le cadre de l'accord signé entre Téhéran et Moscou, est également considéré comme un réseau de transport important pour le corridor nord-sud. Il vise à relier les chemins de fer existants de la Russie, de l'Azerbaïdjan et de l'Iran. Et ce n'est qu'un début, puisque le développement d'autres voies de transport est à l'ordre du jour des deux pays. Au cours de ces dernières années, nous avons assisté à un renforcement des liens entre Téhéran et Moscou. Et c'est dans ce contexte que la deuxième plus grande banque russe, VTB, détenue majoritairement par l'État, a ouvert un bureau de représentation en Iran alors que les deux pays voisins cherchent à connecter davantage leurs systèmes de communication et de transfert interbancaire face aux sanctions occidentales. Le président de l'Organisation iranienne de promotion du commerce, Ali Reza Peymanpak, a annoncé la nouvelle dans un message publié mercredi 17 mai sur sa page Twitter. Avec le démarrage officiel des activités de VTB Bank en Iran, les conditions seront favorablement assurées pour l'accès sûr et à faible coût des entrepreneurs et hommes d'affaires iraniens au système bancaire de nombreux États européens, africains et asiatiques. Les entreprises iraniennes auront désormais la possibilité d'effectuer des virements bancaires internationaux en une journée, a-t-il précisé. De plus, VTB Bank et ses filiales seront très actives dans les pays d'Amérique du Sud, ce qui permet à l'Iran de diversifier ses routes d'échange avec les pays cibles d'exportation de cette région. La banque russe a également étendu ses activités en Chine, en Afrique du Sud, au Venezuela et dans les pays membres de la Ligue arabe, proposant des banques et des entreprises iraniennes au réseau bancaire de ces pays. VTB Bank et ses filiales sont actives en Biélorussie, au Kazakhstan, en République d'Azerbaïdjan, en Géorgie et en Suède. Plus tôt cette année, le gouverneur de la Banque centrale d'Iran, Mohammad Reza Farzin, a déclaré qu'un lien direct avait été établi entre les banques centrales d'Iran et de Russie. Il a affirmé le 30 janvier que le canal entre l'Iran et le reste du monde était en cours de rétablissement. Le réseau bancaire iranien aura également une connexion directe avec 106 autres banques étrangères. Dans le cadre du développement des relations entre les deux pays, le porte-parole présidentiel russe Dmitri Peskov a fait état ce jeudi 18 mai du développement des relations de Moscou avec Téhéran et d'autres pays, indépendamment de la pression américaine exercée de part et d'autre. Dmitri Peskov a en effet annoncé lors d'une conférence de presse au Kremlin que la Russie, l'Iran et un certain nombre d'autres pays continueront à construire des relations basées sur les intérêts et le respect mutuel, malgré la pression des États-Unis. Les actions hostiles de l'Occident envers la Russie ne resteront pas sans réponse, a-t-il noté. Rappelons que ce mercredi, Téhéran et Moscou ont signé un accord sur la construction du dernier tronçon de la ligne ferroviaire Nord-Sud qui reliera le chemin de fer iranien à la ligne ferroviaire de la Russie, de la région du Caucase, de l'Europe du Nord et de la Scandinavie. Cité par Sputnik, Peskov a expliqué à ce sujet « Nous avons jamais eu l'illusion que les États-Unis cesseraient d'essayer de faire pression sur la Fédération de Russie, sur l'Iran et sur d'autres pays qui recherchent une coopération mutuelle bénéfique. » Nous avons toujours su que ces pressions continueraient. C'est après la signature du dit accord que Ted Cruz, le sénateur américain républicain et radical, a menacé que lui et ses collègues allaient désormais travailler sur un projet de loi visant à durcir les sanctions contre Téhéran et Moscou afin d'empêcher l'augmentation de la coopération entre ces deux pays. Rappelons que toujours dans le cadre du renforcement des liens entre les deux pays, le commandant en chef de la marine russe, l'amiral Nikolai Evmenov, s'est rendu ce lundi 15 mai à Téhéran, où il a été reçu par le commandant de la marine de l'armée iranienne, le contre-amiral Shahram Irani. Lors d'une rencontre entre les deux parties, le contre-amiral Shahram Irani s'est réjoui des coopérations entre les marines russes et iraniennes dans le cadre des compétitions des armées du monde et des exercices militaires conjoints sino-russes-iraniens. La présence d'un groupe naval russe aux trois tours d'exercice conjoint sino-russe-iranien était précieuse et surtout les récents exercices conjoints ont transmis un message important à notre ennemi commun, a souligné le général Irani. Le commandant de la marine de l'armée iranienne a plaidé pour le renforcement des liens bilatéraux, évoquant la nécessité de former un comité conjoint de suivi pour les interactions dans divers domaines, dont les entraînements et les coopérations techniques. Pour sa part, l'amiral Evmenov s'est dit content d'être venu en Iran, émettant l'espoir que cette visite aide au renforcement des liens navals entre les deux pays. Le responsable russe a tenu à apprécier la décision iranienne d'organiser en Iran certaines disciplines des jeux militaires des armées du monde, avant d'ajouter que plus d'efforts doivent encore se faire dans ce domaine de part et d'autre. Les relations entre les marines russes et iraniennes sont d'une grande importance, a estimé l'amiral Evmenov, lequel a prescrit qu'il ne faut pas se contenter du niveau actuel. Le gardé de la marine russe s'est dit rassuré que les deux pays avancent sur la bonne voie. Nous sommes prêts à parvenir le plus rapidement possible à un accord bilatéral dans ces domaines et le mettre par la suite à exécution, a-t-il précisé. Evmenov a invité le contre-amiral Irani à participer au défilé du jour anniversaire de la marine russe à Saint-Pétersbourg et à visiter les unités de la marine de la Fédération de Russie.